Imaginez si nous, les chrétiens d'Ozoir, étions souvent agressés et que des amis proches étaient tués à cause de leur foi. Dans quel état serions-nous ? On serait peut-être venu ce matin et plus de sonneaux. Et dans quel état on serait maintenant ? Tristesse, colère, peur, doute, insécurité. Ce matin, je vais continuer dans notre série de messages sur la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et ce matin, je vais parler donc de cette jeune église de Thessalonique qui est née dans la persécution. Paul le confirme, celui qui écrit, dans sa première lettre à cette église. Et je vais citer juste quelques textes qui confirment tout cela. 1 Thessaloniciens 2, verset 2 dit ceci: « Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. » Ces chrétiens continuent à vivre dans la persécution et Paul le dit aussi dans sa première lettre. Je cite 1 Thessaloniciens 2, 14: « Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. » Paul va même parler ensuite des chrétiens décédés. On voit cela dans le chapitre 4, à partir du verset 13. Il y avait donc très certainement des chrétiens tués à cause de leur foi. Et dans sa deuxième lettre, Paul parle encore de la persécution dans 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Je cite: « Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » Et plus loin, Paul dit que les persécuteurs font souffrir les chrétiens. Et plusieurs commentateurs confirment que la persécution devenait de plus en plus forte concernant ce que vivaient les chrétiens, au point que les chrétiens croyaient que le jour du Seigneur était très proche. Paul semblait leur dire dans sa première lettre que Christ allait revenir d'un instant à l'autre. Et à cause de cette mauvaise interprétation, plusieurs croyants se laissaient aller à l'oisiveté, ils ne travaillaient pas, ils vivaient dans le désordre, en invoquant comme excuse leur attente du retour de Christ. Puisque Jésus-Christ revient, on va rester les mains dans les poches et on va attendre qu'il arrive. Arrêtons de travailler, les gars, ça sert à rien. Jésus-Christ revient. C'est tellement chaud, la persécution, qu'il y avait aussi, très certainement, à cause de la persécution, un côté intense d'attente qui provoquait cela. Alors, on avait parlé du retour du Seigneur, et certains se disent, est-ce que pour les lecteurs, Jésus-Christ était déjà venu ? Est-ce qu'il était proche d'arriver ? Enfin, on essaye d'analyser le texte, mais en tout cas, il y avait une crainte que vivaient les chrétiens par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui sont ici ce matin, vous ne connaissez pas peut-être la foi chrétienne, je vais en dire plus dans quelques instants. Et vous avez entendu l'évangile tout à l'heure. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, Jésus-Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et quand on parle de persécution, Jésus lui-même avait dit que l'Église allait souffrir. Et on se rend compte encore aujourd'hui à quel point la persécution ne cesse d'augmenter. Donc, on est face à un sujet vraiment d'actualité. Hein. Donc, on est face à un texte qui date de bien plusieurs siècles, mais en plus de ça, enfin, aujourd'hui, on peut encore dire que la persécution augmente. Paul dit à ses lecteurs, veut corriger plutôt la pensée de ses lecteurs concernant le retour de Christ, et nous l'avons vu il y a quelques dimanches. Leur persécution était terrible, mais il y en aura une encore plus grande, c'est ce que Paul dit, une encore plus forte, où la puissance de Satan se déchaînera contre les chrétiens à travers un homme. Alors Paul leur dit, Et ça, c'est dans le chapitre 2, verset 2. « Ne vous laissez pas si facilement ébranler. » Et Paul finit donc le chapitre 2 en invitant les chrétiens à la vigilance, au courage et à la persévérance dans la foi. Nous sommes maintenant dans le chapitre 3. Et nous allons donc voir les versets 1 à 5. Paul va donner ici quatre choses dont tout croyant a besoin au sein de la persécution. Mais avant d'aller sur ces quatre points, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'entendre le message de ce matin, ni ces textes, parce que vous vous dites, ben, ça ne sert à rien puisque nous ne sommes pas persécutés ici en France. Mais voici quatre raisons qui font que nous avons plus que nous ne le pensons besoin de ce texte. Premièrement, la persécution peut venir d'une minute à l'autre. Il y a pas mal de choses qui montrent en France que c'est de plus en plus difficile de vivre en chrétien. Nous ne sommes pas à l'abri et donc nous devons nous y préparer. Deuxièmement, nous avons des frères et sœurs, comme je l'ai dit, en Jésus-Christ, qui sont fortement persécutés à cause de leur foi. C'est notre famille, en tout cas nous croyons. Ils ont besoin de nos prières et nous devons combattre avec eux pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Troisièmement, si nous annonçons vraiment l'Évangile en France, nous verrons de fortes oppositions, les amis. Peut-être pas aussi fortes que dans d'autres pays, mais le combat est aussi présent ici. Et si je prenais le temps de vous demander qui sont les personnes qui... est-ce que vous avez vécu une certaine opposition quand vous avez témoigné de votre foi à des collègues, à des amis? Je pense qu'on serait plusieurs à dire oui. Et quatrièmement, le texte que nous allons voir ce matin peut aussi nous aider, en tout cas aider ceux qui souffrent dans d'autres sujets qui ne sont pas forcément la persécution. Et donc si vous êtes dans un temps de souffrance, ce texte peut être aussi une consolation pour vous ce matin. Allons-y. Voici maintenant quatre choses dont tout croyant a besoin au sein de la persécution, ou on pourrait dire aussi au sein de la souffrance. La première chose, c'est prier sans cesse pour l'annonce de l'Évangile. Je cite donc le verset 1 du chapitre 3 de 2 Thessaloniciens. « Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. » Fin de citation. Il y a quelques années, je parlais de Dieu à une personne. Elle m'a arrêté net en me disant « Si Dieu ne se présente pas à moi, je ne croirai pas en lui. » Et il y a quelques semaines, j'ai reparlé avec cette même personne. Elle est encore au même point. Pourtant, je l'avais mis au défi en lui disant « Si tu cherches vraiment Dieu, il se laissera trouver. » On l'a entendu tout à l'heure vers la gauche, quelqu'un disait « Dieu est vivant. » Et si vous ne pensez que Dieu est mort, alors vous n'avez pas cherché. Mais si vous le cherchez vraiment, il se laissera trouver. Il y a tellement de bonheur quand on connaît Dieu. Et pourquoi est-il resté à ce même point? Et pourquoi d'autres restent opposés à l'Évangile? Plusieurs ont du mal à venir à Dieu. Ils ont leurs propres idées, leurs préjugés et bien d'autres choses encore. Et je pense que nous ne devons pas leur lancer la pierre, n'est-ce pas? Et très certainement, plusieurs ici qui ont accepté Christ et qui sont venus à Dieu étaient opposés à la foi aussi. Et donc, vous savez de quoi je parle. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, au-delà de nos préjugés, des choses que nous avons peut-être contre Dieu quand nous sommes encore opposés à Dieu, il y a un combat spirituel. Satan et ses démons attaquent pour détourner les gens de la vérité, les détourner les personnes de Dieu, leur créateur. Et l'apôtre Paul le sait très bien. Voilà pourquoi il demande la prière pour lui et ses collaborateurs. « J'ai besoin que vous priez pour moi. » Il avait déjà demandé la prière pour eux dans la première lettre. Et là, il redemande cela en demandant quelques sujets bien plus précis que dans la première lettre. Pour Paul, la prière est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Lui-même est un exemple, car il ne cesse de prier pour les croyants. Il sait combien il a besoin de la grâce de Dieu et de son action dans sa vie et dans celle des autres. Paul demande donc la prière pour que la parole de Dieu, l'évangile, se répande rapidement dans un temps hostile, difficile, où la persécution est de plus en plus forte. C'est l'une des plus grandes motivations de Paul, que l'évangile soit proclamé partout. Alors qu'est-ce que l'évangile ? On l'a déjà un peu dit tout à l'heure. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, avant tout, s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait une mauvaise. La mauvaise, c'est que nous sommes tous séparés de Dieu. Nous méritons tous d'aller en enfer. Ce n'est pas un beau message, hein ? Mais nous méritons tous d'aller en enfer, loin de la présence de Dieu, dans un lieu de tourment, un lieu terrible. À cause de quoi ? À cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos imperfections, de nos désobéissances régulières à la volonté de Dieu. Tout cela nous sépare de Dieu. Nous ne sommes pas dans un monde parfait à cause de nos péchés. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, et voilà la bonne nouvelle, vient sur terre, il meurt sur une croix à notre place, il prend sur lui nos péchés pour nous en libérer. Par sa mort et sa résurrection, nous recevons la sainteté de Jésus-Christ, sa perfection, une relation rétablie avec Dieu pour toujours et la vie éternelle. C'est trop beau pour être vrai. Mais les amis, c'est vrai. C'est vrai. Ce message est vrai. Paul veut que l'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, soit honorée, reçue, acceptée avec joie, que ce message touche, transforme et amène les auditeurs à devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Une chose me touche beaucoup dans ce texte, Paul était un homme compétent, doué et efficace, un penseur et un communicateur brillant, et pourtant, il reconnaît avoir encore et encore besoin qu'on prie pour lui. Priez pour moi. Et puis, lui qui a bien plus d'années de vie chrétienne, qui est bien plus mature dans la foi que les jeunes croyants de Thessalonique à qui il s'adresse, il reconnaît avoir besoin de leur prière. Nous devons aussi, nous aussi, avoir une telle humilité pour reconnaître que nous avons besoin de la prière des autres pour l'action de Dieu dans notre vie. Le pasteur que je suis a besoin de la prière d'un enfant, d'un jeune dans la foi. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, dans le sens qu'il n'y a pas de plus important, de personne plus importante aux yeux de Dieu. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu, c'est beau. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il peut et veut agir aussi puissamment avec un jeune dans la foi qu'avec un adulte dans la foi. Et on pourrait prendre un temps pour voir quelles sont les prières auxquelles Dieu a répondu, des prières d'enfants. Dieu répond aux prières des enfants. Nos prières sont tellement importantes. Mes amis, l'église d'Ozoir doit être une communauté dans laquelle des frères et sœurs prient les uns pour les autres. On doit grandir dans cela. Prions davantage les uns pour les autres. Et ayons l'humilité pour demander la prière pour l'action de Dieu dans notre vie. Question pour un champion. Pensez-vous que la parole de Dieu peut se répandre dans le monde entier sans prière? Pensez-vous que l'évangile peut toucher des cœurs sans la prière? Il y en a qui affirment non. Et j'ai envie de vous dire oui et non. Dieu peut toucher le monde entier tout seul, sans la prière, sans action de notre part. Mais c'est lui qui a choisi. Et ça, c'est ce qui m'impressionne chez lui. Il a choisi d'agir en réponse à nos prières. Dieu nous fait l'honneur de participer à son œuvre par la prière afin de toucher le cœur de milliers de personnes. Nous avons donc une lourde responsabilité à ne pas prendre à la légère. Dieu nous appelle à prier pour que l'évangile se répande et touche le cœur de milliers de personnes. Est-ce que c'est ce que nous faisons régulièrement? Prions-nous régulièrement pour que l'évangile se répande et se manifeste dans nos familles, dans nos voisins, nos collègues de travail, au travers des différents ministères de l'Église, comme la Jeune Église, donc les enfants qui sont partis, le groupe de jeunes, les chorales, les flambeaux, et dans le monde entier. Si ce n'est pas le cas, alors reprenons sérieusement notre responsabilité de prier pour l'annonce de l'Évangile. Paul ajoute un sujet de prière au verset 2. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Les hommes insensés et méchants, ce sont les persécuteurs. Ceux qui mettent des bâtons dans les roues de Paul, dans l'annonce de l'Évangile. Paul ne demande pas d'être délivré de ces personnes pour son confort personnel. Il vise le même but que le verset 1. Il veut être délivré de toute entrave pour pouvoir être libre d'annoncer l'Évangile à un maximum de personnes. Ô notre Dieu, que ton Évangile se répande et touche tous ceux que nous connaissons, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Touche les cœurs de nos familles, de nos voisins, de nos collègues de travail et dans le monde entier. Et si une personne ici ce matin ne te connaît pas encore, touche son cœur ce matin. Agis dans ton église, à Ozoir, que ton amour touche le cœur des enfants, des jeunes et de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Que nous soyons des lumières dans ce monde, que les chorales, les flambeaux, le scoutisme que nous avons ici pour les enfants de 6 à 10 ans soient des outils que tu utilises pour toucher des cœurs. Que notre projet, nouveau projet de goûter gospel soit conduit par toi pour toucher les cœurs. Notre Dieu, que des milliers de personnes se tournent vers toi, reçoivent le pardon de leurs fautes et expérimentent ton pardon, ton amour, ta paix, ta joie, ta présence pour l'éternité. Amen. Prions les amis. Apprenons à prier régulièrement pour voir l'action de Dieu dans notre vie. En temps de persécution, nous avons aussi besoin, deuxièmement, de compter sur Dieu. C'est très lié à la prière, n'est-ce pas ? Si on prie, il nous faut faire confiance à Dieu. Après cette demande de prière, Paul exprime sa confiance en Dieu et donne un très fort encouragement. Regardez ce verset 3. « Mais le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Quelle belle promesse et fort encouragement pour les croyants persécutés. Quand tout va mal, nous avons tellement besoin de nous rappeler que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il nous rendra forts et nous gardera du diable. Eh oui, derrière les persécuteurs des croyants, ce sont Satan et ses démons qui agissent contre Dieu et son œuvre. Mais même si les persécuteurs peuvent atteindre les enfants de Dieu, Satan lui-même ne pourra jamais atteindre les croyants au point d'aller au bout de ses objectifs qui sont de les détourner de Dieu et de les détruire. Dans la parole de Dieu, nous apprenons que Dieu est fidèle pour nous rendre saints et nous affermir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous apprenons que Dieu est fidèle pour nous aider à supporter les tentations et les épreuves de la vie avec sa force. Il est fidèle aussi et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout le mal que nous avons fait. Et si ce matin quelqu'un est sous le poids d'un péché, sache que Dieu te donne cette promesse. Si tu viens à lui et que tu lui demandes pardon pour tes fautes, il te pardonnera. C'est une promesse. Et ici, il est fidèle pour nous rendre forts et nous préserver du mal et du diable. Paul dit que Dieu est fidèle. Il est entièrement digne de confiance. Nous pouvons compter sur son aide dans toutes nos épreuves. Il ne nous a pas abandonnés. Et il ne nous abandonnera jamais. Si nous continuons à chercher Dieu et à dépendre de lui, il continuera à agir et nous rendra forts spirituellement dans notre être intérieur afin que nous ne tombions pas et il nous protégera des attaques extérieures du diable. Alors gardons cette promesse ce matin et n'oublions pas cette promesse dans nos détresses. Troisièmement, en temps de persécution, nous avons aussi besoin d'obéir à Dieu. Surprenant d'avoir ce point-là. Mais regardez ce que Paul dit. Il exprime sa confiance dans l'obéissance des croyants au verset 4. Il dit ceci, « Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. » La confiance de Paul vient certainement du fait que ses lecteurs ont suivi les premières recommandations qu'il avait données et qu'il avait écrites dans sa première lettre, même si certaines choses étaient déformées, mal comprises. Et sa confiance vient certainement aussi des progrès qu'il voit, parce qu'il parle des progrès des croyants dans leur foi, l'amour, la persévérance, on voit cela dans le premier chapitre de Thessaloniciens. Ce qui confirme donc que ce sont de véritables croyants. Et souvent, je l'ai dit ici, ça, c'est du non-sens de dire « je suis croyant et non pratiquant ». La Bible, elle fait parce que croyant et non pratiquant, c'est anti-biblique. La Bible dit que si nous sommes croyants, nous sommes pratiquants. Et ce qui prouve que nous sommes croyants, c'est notre pratique et notre vie avec Dieu. La confiance de Dieu vient de Paul, donc vient très certainement de leur foi qui est véritable. Mais Paul dit juste avant au verset 4, « Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. » Et donc la confiance de Paul est placée avant tout dans la fidélité de Dieu que nous avons vu au verset 3. Voici la confiance de Paul aussi qui est très bien écrite dans 1 Thessaloniciens 5, je vais citer, « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » Belle confiance hein, en Dieu dans ce qu'il fera, même au sein des épreuves. Dieu est avec vous, il agira pour vous rendre plus saints. Dieu ne nous appelle pas à lui parce que nous sommes fidèles, mais parce qu'il est lui-même fidèle. Il nous équipera, nous rendra capables de lui plaire et nous aidera à vivre dans un fort attachement à lui. Paul encourage ses lecteurs en proclamant la fidélité de Dieu et sa confiance dans leur obéissance parce qu'il sait que Jésus-Christ continuera son œuvre en eux. Mais dire sa confiance dans leur obéissance, c'est aussi leur rappeler leur responsabilité. Ils doivent continuer à obéir à Dieu, à tout ce qui est écrit dans sa parole. Dans la persécution et dans de fortes épreuves, les croyants peuvent facilement se relâcher dans leur obéissance à Dieu. Voilà pourquoi il est impératif que leur obéissance soit soutenue par l'action de Dieu. En temps de persécution, ce sera notre dernier point, nous avons besoin de grandir. Grandir dans l'amour pour Dieu et l'endurance. Paul prie pour les croyants au verset 5, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Les croyants avaient besoin de se rappeler l'amour de Dieu. Paul a vu leur besoin car il le dit trois fois. On le voit dans la première lettre, je cite donc le verset 4 du chapitre 1, il est écrit « Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisi, vous qui l'aime. » De Thessaloniciens 2,13, on a l'impression qu'il a dit la même chose. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, vous que le Seigneur aime. Et juste un peu après, verset 16, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour. Paul demande à Dieu que les chrétiens aient une connaissance de plus en plus profonde de l'amour de Dieu pour l'aimer de plus en plus. Et c'est clair que dans un temps de persécution, nous avons besoin, ou d'épreuves, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu nous aime. Paul finit avec l'endurance, et on sait très bien qu'il est dans les moments difficiles, on en a tellement besoin de persévérance. Et donc Paul a exprimé ce sujet, de fierté, puisque les croyants étaient déjà persévérants, mais ils en ont encore bien besoin. Voilà pourquoi Paul prie encore pour la persévérance. Que les chrétiens reçoivent l'endurance parfaite et surnaturelle de Jésus-Christ, lui qui a su supporter de terribles souffrances jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Je vais juste redonner les quatre points maintenant. Dans la persécution ou dans de dures épreuves, nous avons besoin de prier sans cesse pour l'annonce de l'Évangile. Nous détourner de nos problèmes, entre guillemets, parce qu'il y a un projet plus grand, que l'annonce de l'Évangile continue. Compter aussi sur Dieu. Troisièmement, obéir à Dieu. Et enfin, grandir dans l'amour pour Dieu et l'endurance. J'aimerais, avant de finir, vous demander lequel de ces points avez-vous le plus besoin de travailler en ce moment ? Peut-être que pour quelqu'un ici, ben, tout simplement, tout ce que j'ai entendu, je ne comprends rien. Et j'ai tout simplement, et je ne connais pas Dieu, j'ai jamais expérimenté sa présence dans ma vie. Eh bien, je t'invite à venir à lui. Juste, on va prendre un temps dans le silence. Et à ce moment-là, tu pourras prier à ta place et demander à Dieu qu'il se révèle à toi. Autre chose, peut-être que ce sera pour quelqu'un, ce sera ce premier point, que peut-être que tu t'es refroidi dans ta vie de prière. Peut-être que tu pries pas souvent pour l'annonce de l'évangile. Ou peut-être que tu n'oses pas demander la prière des autres pour toi et qu'il te manque cette humilité pour dire aux autres, j'ai besoin de vos prières. Alors peut-être que ce premier point te parle, ce premier point te parle et donc tu pourras prendre une décision tout à l'heure. Peut-être c'est le deuxième, dans une épreuve ou une autre, tu vois que tu as du mal à compter sur Dieu. Dieu t'invite à compter sur lui. Donc peut-être lui demander pardon et lui demander, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai du mal à te faire confiance dans telle situation. Troisièmement, obéir à Dieu. Peut-être que à cause d'une épreuve, tu t'es relâché dans ton obéissance à Dieu. Et bien Dieu t'invite aussi à revenir à lui. Et enfin, grandir dans l'amour pour Dieu et l'endurance. Peut-être t'es-tu refroidi. Peut-être que toi qui aimais Dieu de manière très forte avant, et bien ton amour pour lui s'est refroidi. C'est le moment pour dire à Dieu, Seigneur, pardon. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver ton amour et à marcher dans ton amour. Prenons ce temps. Maintenant, juste un court moment de silence et ensuite je prierai. Dieu notre Père, merci pour ta parole ce matin. Tu connais nos cœurs et te demandons, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes allés dans de mauvaises directions quand nous étions dans la détresse, dans l'épreuve. À notre niveau, nous voyons bien qu'il y a de l'opposition quand nous parlons de toi, dans nos familles, auprès de nos collègues peut-être, auprès de nos voisins. Nous voyons aussi la forte opposition qu'il y a dans les pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Te demandons pour nous et comme pour eux que tu nous aides à prier sans cesse pour l'annonce de l'Évangile et la protection de tes enfants, que tu nous aides à compter sur toi, à t'obéir, à grandir en amour pour toi et l'endurance de Jésus-Christ. Utilise-nous pour amener des personnes à toi et continue ton œuvre pour qu'encore aujourd'hui, des milliers de personnes disent oui à ton amour. Je te demande, Père, que ceux et celles qui sont fatigués, chargés, qui sont à bout de force dans une épreuve, que tu leur donnes ta force, ta paix et ta consolation. Merci infiniment parce que tu agiras dans nos cœurs, dans nos vies. Et tu continueras parce que tu nous aimes. Nous te le demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.